500 millions de personnes dans le monde auront développé diverses maladies par manque de sport entre 2020 et 2030. Je suis Mehdi Savary, ancien sportif de haut niveau et fondateur de la startup Bouge, la carte interactive pour trouver tout le sport. Avec le podcast Bleu Blanc Bouge, je reçois des invités qui mettent une plus grande dose de sport dans la vie des gens par des actions concrètes. Donc c'est parti, Bleu Blanc Bouge.
Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être chez nous dans l'émission Bleu Blanc Bouge. C'est un honneur, je te le disais tout à l'heure. Je suis vraiment hyper content. Je commence par notre traditionnelle question. C'est quoi le souvenir de gamin Thierry lié au sport, évidemment?
Oh non, le premier souvenir, c'est facile. C'est le judo club de Champigny. Ouais. Et puis le premier judogi offert par ma mère, acheté à la montagne Sainte-Geneviève. Un vrai judogi qui arrivait du Japon et qu'elle m'a offert après mes deux années, ou première année d'ailleurs passée au club de judo. Donc ça, c'est des grands moments parce que d'abord, un premier club, un premier sport dit de combat, c'est toujours un petit peu de doute, de peur, d'inquiétude de ne pas être à la hauteur. Et puis finalement, ça devient un vrai besoin, une vraie famille. Et... Non, c'est un grand souvenir, c'est très émouvant, on est dans les années 70. Hein,
T'as quel âge à l'époque?
Premier club, 12 ans. Okay. 12 ans. J'avais connu un peu le sport avant parce que mon grand-père était très, très proche de la boxe française et de la savate.
Okay.
Donc c'était un peu familial. Quoi.
Ok, super. Très bien. Thierry Marx, tu te présentes, les gens te connaissent, mais voilà, présente-toi.
Oui, non, Thierry Marx, c'est facile, hein, je suis un artisan, je suis bien sûr, comme on dit, chef cuisinier, chef d'entreprise aussi, mais je viens du monde de l'artisanat, j'ai commencé par la pâtisserie et j'ai enchaîné avec l'univers de la cuisine beaucoup plus tard, mais c'est aujourd'hui un vrai bonheur d'ailleurs d'œuvrer dans ces métiers de la restauration.
Super. Et du coup, donc, tu passes beaucoup d'années dans les cuisines et aujourd'hui, tu as une casquette, en tout cas il y a une casquette qui nous intéresse chez Bleu Blanc Bouge, les décideurs du sport qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous en parler de cette expérience autour de ton association?
Je vais essayer de faire l'historique du truc, 2004-2006.
Merci.
Je suis élu chef de l'année, c'est formidable. Je serais content de ça. Et puis, j'ai la chance de bénéficier d'une très belle couverture médiatique.
Ouais.
Et notamment d'une page dans Libération et ensuite un envoyé spécial. Et énormément de gens de mon quartier, des gens qui, comme moi, sont sortis d'une extraction sociale difficile, dure, et qui me disent, moi aussi, je viens du quartier, moi aussi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les gens qui, comme moi, viennent d'une extraction sociale modeste et qui cherchent des fois un projet? Et on a créé une première association autour de la cuisine, ensuite de la boulangerie, et je trouvais que je n'allais pas chercher des plus jeunes. Donc, il fallait aller au pied des immeubles. Et j'ai rencontré, je connaissais bien Benoît Campard, qui était le DTN à l'époque de l'équipe de France de judo et qui œuvrait dans l'univers du judo. Puis, on est parti sur l'idée de créer Passeport pour l'emploi, donc de permettre à des jeunes gens de se reconstruire au travers du sport, c'est-à-dire de retrouver la condition physique.
Ouais.
Parce qu'on se croit des fois être en condition physique, mais on ne l'est pas. Et une fois qu'après ces 12 semaines, ils aient... retrouver cette condition physique, de les ramener vers un projet métier ou alors une scolarité. C'est un vrai succès parce qu'on a quasiment 100% de retour dans un projet, qu'il soit professionnel ou qu'il soit scolaire. Et ça, c'était un vrai enjeu parce que Passeport pour l'emploi permet aujourd'hui à des jeunes de se dire « j'ai pas de projet, je tourne un peu en rond, qu'est-ce que je peux faire ?» et de s'apercevoir que finalement, dès lors qu'ils vont retrouver une condition physique, qu'ils vont améliorer leur sommeil, qu'ils vont améliorer leur alimentation, qu'ils vont reprendre conscience que c'est corps et esprit, eh bien, tout d'un coup, ils relèvent la tête, ils regardent au-dessus de la ligne d'horizon, puis ils s'aperçoivent qu'au-delà du quartier, il y a plein de choses à faire, il y a des opportunités assez incroyables dans cette vie.
Bien sûr. Quand tu fais un peu un retour en arrière, tu as collaboré avec la Fédération de Judo. Est-ce que demain, on peut, pour répliquer ce modèle et l'étendre, est-ce que c'est un réflexe qu'on devrait avoir d'aller voir les fédés ou c'est plutôt à l'échelle locale, dans les quartiers, avec les territoires, avec
non,
les éducateurs?
Je ne suis pas du tout allé voir les fédérations.
Ah non, tu nous as cité le DTN, pardon.
Ouais. J'ai rencontré, je connaissais Benoît Campargue, on a travaillé avec Benoît Campargue.
Okay.
Mais effectivement, quand Stéphane Nomis est arrivé président de... la Fédération Française de Judo, il avait la même démarche aussi d'aller, de faire les 1000 dojos.
C'était quelque chose.
Nous, on cherchait autre. On était déjà là un petit peu avant et on cherchait quelque chose qui puisse ramener les gens dans l'idée d'un projet. Pas tout miser sur une seule discipline, mais se dire comment on se reconstruit au travers du sport, au travers de ce cadre éducationnel qu'est le sport. Okay. Et d'ailleurs, c'est David Alert, qui est champion d'Europe du 400, qui pilote finalement tout le programme sportif. Ce n'est pas un judoka, c'est David Alert qui a mis en place le programme pédagogique autour du sport.
Ok. Et comment tu t'y es pris pour lancer ça, en fait? Parce que, je veux dire, ce serait éligible à l'ensemble du territoire, enfin l'ensemble des quartiers. Ça a été quoi un peu votre méthode pour...
Partenariat public-privé, ouais. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise s'est intéressé au projet,
ouais.
Parce que le monde de l'entreprise est très regardant aujourd'hui sur les programmes RSE,
bien sûr.
Parce que cette fracture sociale depuis 1994, que le président Chirac ait parlé de cette fracture sociale, on s'aperçoit qu'elle s'est durcie, qu'elle est extrêmement inflammable et que le monde de l'entreprise a peut-être un regard à avoir sur comment on remet des passerelles sur cette fracture sociale pour que les gens retrouvent l'idée de l'épanouissement et du projet. Mmh. Et puis effectivement, les programmes issus de l'État, qui sont des programmes de retour à l'emploi, d'aide aux personnes éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi. Et on a bénéficié de tous des aménagements, finalement, qui existent pour pouvoir construire. Alors, ce n'est pas simple,
ouais.
Parce que on est tous éligibles dans les associations, mais c'est un travail d'administration qui est colossal. Mmh. Et on ne s'attendait pas à que ce soit aussi dur d'avoir en face de nous un bloc administratif. Autant on peut avoir des ministres qui nous disent « mais c'est génial, on y va et on avance ».
Ça, c'est le politique.
Ça, c'est le politique. Des préfets qui nous disent « mais c'est formidable, on avance ». Et au milieu, il y a une sédimentation de process, de choses à mettre en place entre les PWEC, entre les acteurs qui financent ces formations professionnelles, parce que ce sont des véritables formations professionnelles, comme ACTO et ça, qui des fois ne connaissent pas le procédé au travers du sport, soit sont réticents à financer telle ou telle chose. Donc à chaque fois, c'est un peu un parcours du combattant pour nos administratifs d'aller chercher les financements, parce que c'est compliqué. Alors on s'est beaucoup appuyé sur le monde de l'entreprise, parce que eux avaient déjà des projets à nous proposer. Okay. Et on a pu mettre des personnes en face de ces projets, tout en les ramenant d'abord, comme je l'ai évoqué, dans une condition physique qui leur permette de retourner vers l'emploi dans meilleures conditions possibles.
Aujourd'hui, c'est quoi la dimension de l'asso? Tu parlais de tes administratifs qui vont instruire les dossiers.
On est une...
et sur combien d'années d'expérience là, vous
en
avez
10 ans, 10 ans, ouais, 10 ans, on est à peu près une vingtaine de personnes fixes. Puis après, on a évidemment des gens en ouais. vacation et bien puis sûr. On se développe sur tout le territoire okay. parce qu'on peut aussi bien intervenir à Tours, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, périphérie. Et évidemment, on intervient beaucoup dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi en ruralité, parce que pas croire que la ruralité n'est pas en besoin ouais. d'être en protection sur certaines choses ou remis en perspective sur certaines choses. Et le monde du sport permet ce cadre éducationnel qui permet à tout à chacun, finalement, de trouver un parcours épanouissant.
Très clair. Et aujourd'hui, tes relations avec les territoires, parce qu'on parlait des organismes qui vont valider l'aspect formation, ça, je comprends bien, et toute la démarche administrative. Et c'est quoi les interactions sur ces 10 dernières années avec les territoires?
Bah, les territoires, on n'a pas vraiment de... On arrive, on propose quelque chose. Soit,
okay.
La région, le territoire est intéressé, soit il ne l'est pas, okay. soit on télescope avec d'autres associations. Nous, notre particularité, ce qui est quand même, on n'est pas simplement une association où on va animer des cours de sport, où on va animer. On est là pour remettre des personnes dans le chemin, dans une voie qui peut les épanouir, celle de la scolarité ou celle du monde du travail, d'un projet métier. Donc c'est un petit peu différent. C'est vrai que les territoires disent non, mais j'ai déjà quelque chose sur le sport. Mais oui, on leur dit souvent, vous avez une animation autour du sport, et tant mieux, c'est génial. Mais nous, on est là pour remettre des gens dans l'idée d'un projet. Et on voit très très bien que ça a son importance, parce que faire du sport, bien sûr que c'est une absolue nécessité, mais que ce sport puisse vous permettre de regarder un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon, comme je l'ai dit, et de dire, je suis en condition physique, finalement, je peux découvrir quelque chose qui est extrêmement important, qui est de faire pour apprendre. Nous rencontrons des publics qui ont des difficultés à apprendre pour faire. Donc la scolarité a été un sujet un petit peu empirique. Et là, ils trouvent qu'au travers du sport, ils apprennent une méthode d'apprentissage qui est de faire pour apprendre. On regarde le professeur, on essaye de répéter le geste. Observe et tais-toi, en gros, c'est ça. Apprends et comprends. Ensuite, tu peux innover, tu peux monter en grade, tu peux devenir meilleur sur un parcours Luc Léger, etc., etc. Donc, les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent faire pour apprendre et que ce faire pour apprendre, ils pourraient le mettre en application sur d'autres cheminements, cheminement métier, cheminement scolaire.
Très clair. Et justement, pour bien comprendre, si moi je suis un maire ou en tout cas un agent dans une ville, toi tu lui demandes rien au territoire quand non, toi tu arrives clé en main.
On arrive clé en main, on développe tout de suite une action okay. autour du sport.
Alors ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas dire non si vous recevez une proposition de l'association de Thierry Marx sur ce projet-là, parce que c'est un outil clé en main, gratuit, qui va mettre en place. Et pour connaître les territoires chez Bouge, je le rappelle, on travaille tous les jours avec des territoires. Il y a des problématiques RH, de compétences, de formation, de financement. C'est-à-dire, une ville, elle n'aura pas de toute façon les ressources, a priori, pour faire exactement ce que tu vas faire. Si c'est délivré sur un plateau, on fonce, en fait, vu la dimension sociale, vu, bien sûr, l'aspect où, grâce au sport, bah, on remet sur un parcours apprenant, c'est ce que tu dis, on fonce, en fait.
Bien sûr, et surtout, c'est qu'on met le candidat en face de lui-même. D'ailleurs, on dit « la formation est gratuite ». Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais on ne demande pas d'argent. On demande un moyen de paiement qui est simple, qui s'appelle RER. Rigueur, c'est votre projet. Engagement, lâcher la main du passé, là, on peut vous aider. Régularité, on va se dire que pendant les 12 semaines, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Vous voyez, c'est la monnaie d'échange. C'est assez bête. Hein. Et puis, si on se quitte, on se quitte bons amis. C'est pas très grave. Deux, on va vous proposer de faire votre évaluation. C'est pas nous qui allons faire jouer au professeur et faire votre évaluation. C'est qu'on va vous donner un outil qui s'appelle EvaCops, qui va vous permettre de mesurer votre ponctualité, de mesurer l'effort physique que vous avez fait pour réussir un Luc Léger, un parcours, une épreuve physique, un peu de test sur les tatamis, enfin, tout un tas de choses que dans lesquelles vous allez pouvoir vous évaluer tout seul. Ensuite, on fait, avec le coach, on fait une évaluation partagée et on donne cet outil ensuite à cette jeune personne pour qu'il puisse aller voir un employeur et dire voilà, « voilà ce que j'ai fait pendant ma préparation, quel métier vous pouvez me proposer ?»
Bien sûr.
Et là, on fait en sorte que ces jeunes gens, ou moins jeunes des fois, ces jeunes gens rencontrent les entreprises qui peuvent les intéresser, les entreprises de sécurité. Il y a beaucoup de demandes dans la sécurité aujourd'hui. Les entreprises du bâtiment, les entreprises de l'hôtellerie-restauration, parce qu'à savoir que l'hôtellerie-restauration, ce n'est pas que les métiers de la cuisine et du service, il y a tout un tas d'autres métiers autour. Et on les met en relation. Ou alors, ils nous disent, non, mais moi, je veux aller en retour scolaire et j'aimerais faire tel ou tel diplôme. Et dans ce cas-là, on les accompagne. Mais ils sont plus forts parce qu'ils se sont remis en condition physique. On voit beaucoup de jeunes gens arriver avec des déficits physiques. Ce serait idiot de se le cacher. Un peu de surpoids, une mauvaise alimentation, déficit de sommeil, un peu d'addiction aux écrans. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on a tourné un peu en rond dans la cage d'escalier, quoi. Et à un moment donné, le sport peut redevenir un cadre éducationnel qu'on ne vous impose pas. C'est vous qui décidez, qui vous engagez en disant... Ah, je peux peut-être essayer 12 semaines, finalement, c'est pas 3 mois.
Bien sûr.
C'est ce qui nous amuse, nous, c'est de dire 12 semaines, c'est pas 3 mois. 12 semaines, je peux le faire et je vais être en condition physique. Et d'ailleurs, on voit des pertes de poids, des physiques qui s'améliorent, qui se transforment, qui prennent de la masse, etc. Donc tout ça, c'est bien mieux. Et c'est filles, garçons, parce qu'on a une parité quasiment parfaite dans nos associations.
Ah, ça, j'allais te poser la question sur la parité. Ok. Très clair, parce qu'on connaît certaines barrières de retour au sport pour les publics féminins. Très clair. Donc, juste pour redimensionner l'association, une vingtaine de personnes, plus après tes éducateurs, des
oui,
professionnels.
Oui, bien sûr, il y a des professionnels du sport qui viennent nous voir, qui rejoignent l'équipe momentanément par moment, parce qu'ils sont à la vacation.
Ouais.
Des athlètes en reconversion aussi, beaucoup. Okay. Hein. On a des athlètes qui viennent, qui ont été à haut niveau dans le judo, dans l'athlétisme, dans d'autres disciplines, dans la boxe notamment. Des gens qui ont fait quand même une très jolie carrière d'athlète de haut niveau et qui montrent aussi ce que c'est que d'être athlète de haut niveau. C'est quand même des gens qui sont câblés un petit peu différemment, qui vont aller chercher un petit peu plus loin que les autres et ça devient des rôles modèles. Ce qui est important, c'est d'avoir des rôles modèles aussi dans l'association pour que nous fabriquions aussi d'autres rôles modèles. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont été stagiaires à Passeport pour l'emploi sont devenus formateurs des fois à Passeport ou reviennent des fois en tant que formateurs à Passeport.
Génial.
Ça, c'est, bon c'est magique parce que ces quartiers ont été un peu privé du monde du sport. Moi, j'ai connu dans ces quartiers beaucoup de sport parce qu'il n'y avait que ça. Et puis, à un moment donné, le sport, c'est devenu très commercial. Il y avait plus l'accès à ces terrains gratuitement, c'est l'accès à ces gymnases très peu cher. Moi, je me souviens, à Champigny, c'était très peu cher. On ne payait même pas. Et après, évidemment, tout ça s'est commercialisé. Ouais. Et beaucoup de familles n'ont plus accès au sport. Et c'est une, à mon avis, très toxique quand un peuple n'a plus accès au sport.
Très clair. Tu prêches un convaincu. Merci en tout cas pour ces explications, ce super outil. Donc là, clairement, si vous nous écoutez, il faut se renseigner. Est-ce qu'on a un contact, site internet, bien sûr, je suppose.
Site internet et envoyez tout ce que vous voulez savoir sur l'association Passeport pour l'Emploi. C'est Lydia qui pilote tout ça. Vous tapez Lydia Passeport pour l'Emploi et vous allez trouver.
On mettra les coordonnées dans les notes de l'épisode, bien évidemment. On arrive justement sur le jeu de rôle. Tu vas être là pleinement aux responsabilités d'une mairie. Tu es le maire, Thierry. Tu viens d'être élu. Je suis ton élu au sport, ton adjoint. On est le jour 1, feuille blanche. Et on se donne un objectif, c'est celui des enfants et notamment, tu l'as cité tout à l'heure, les écrans, lutter contre la sédentarité. Hein, donc position assise, on le rappelle, et évidemment aussi une addiction aux écrans. Donc on se rend compte que dans notre ville de 30 000 habitants, c'est en croissance comme sur le plan national et on veut agir. Voilà, on est ensemble, c'est un exercice, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On réfléchit ensemble et on essaie de penser avec une méthode, avec un timing sur les 12 prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait en première étape? Et donc je te pose la question, ce serait quoi toi la première étape que tu ferais sur cette problématique-là?
C'est simple, tout de suite toucher la petite enfance. Okay. Donc on va aller vers des classes de cours préparatoires et toutes ces classes du primaire pour qu'on puisse travailler sur au moins 2 séances de sport par semaine. Genre, quand je dis séances de sport, entendons-nous, il n'est pas question de faire des activités qui seraient très dures en termes de sport, mais la marche est possible, l'activité physique sous forme de jeu c'est possible.
Bien sûr.
Et ça c'est quelque chose que je mets en place tout de suite un coût social, c'est-à-dire que je débloque de l'argent vraiment pour le faire en se disant voilà, c'est le coût social, c'est au même titre que les ronds-points qu'on met dans les villes, ça a un coût social
200 000 euros
pour l'esthétisme de la ville. Et ben la piscine elle a un coût social, le terrain de foot il a un coût social et l'activité sportive dans la scolarité il a un coût social. Et ça c'est important parce que je finirai par le coupler avec des ateliers cuisine pour que ces jeunes gens très tôt ne soient plus des consommateurs mais redeviennent des mangeurs. Donc ça veut dire atelier cuisine, j'ai fait un petit peu de sport, quel goûter je me prépare. Et ça, une fois par mois, on fait un atelier cuisine lié à l'idée que je vais mieux, je fais du sport, je respire mieux, je marche mieux, je suis mieux dans ma peau. Moi, il faut aussi un carburant qui fonctionne avec ça.
Bien sûr.
Dans un axe très simple, plaisir, bien-être, santé, c'est ça la cuisine. Et de faire des ateliers cuisine très simples, 3 gestes, 3 ingrédients, très peu cher, pour que ces gamins redeviennent des mangeurs et soient plus des consommateurs. Donc plus de consommateurs de mauvais produits, mais aussi de choses qui sont un peu polluantes dans leur vie, qui sont les écrans et toutes ces choses qui font que ça devient des enfants sédentaires et qu'on voit des jeunes adolescents aujourd'hui très touchés par l'obésité et le diabète de type 2. Ça, c'est vraiment une urgence d'appliquer ça. Donc ça, c'est la mission première en tant que maire que je donnerai à mon responsable des sports. Attention, le sport, c'est un coût social, j'en suis conscient.
Okay.
Je vais renier sur autre chose, mais là, on ne renie pas là-dessus parce que c'est notre jeunesse et donc c'est l'état de santé de notre pays dans 20 ans.
Clairement. Ça, c'est l'idée et elle est super bonne. Comment on la traduit? Parce que dans tout ce que tu viens de dire, il y a plusieurs parties prenantes. Déjà, il y a effectivement, tu l'as très bien dit, il y a tes services. Donc tu vas avoir, là moi je suis ton élu, mais effectivement, ce n'est pas mon temps plein. Donc on a un directeur des sports. Directeur des sports qui va devoir se coordonner avec son directeur de l'enfance, de l'éducation. Les écoles, tu leur parles comment? On emploie quoi? On ne fait pas la distinction privé-public, mais on emploie quoi comme méthode de communication pour concerter Ou on reste classique, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait là sur cette étape-là?
Non, il n'y a pas de, c'est pas très complexe. C'est-à-dire que ce sont des ateliers bien-être. On n'est pas obligé de parler tout de suite de sport où les parents pourraient se dire, oh là là, le sport, ça va être compliqué. Mon enfant n'est pas frais pour ça.
Ouais.
On va parler d'ateliers bien-être. Quand j'ai inauguré un dojo à Grigny, la chose que j'ai faite, on s'est dit, oui, c'est un espace qui s'appelle un dojo où on va pouvoir, mais toutes les formes de corporalité sportive peuvent s'exprimer là. Donc non, on va faire des ateliers sport ou d'ateliers bien-être, ouais, dans lequel il y aura un peu d'exercice physique, okay, et d'éveil au sport, et puis un éveil à l'alimentation. Ça me paraît essentiel. Donc la planification est très simple, et le corps enseignant aujourd'hui est demandeur, ça, et aussi demandeur de nouveaux modes pédagogiques. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont des enfants qui sont des fois dans le faire pour apprendre, c'est compliqué. Donc apprendre pour faire, ou faire pour apprendre, pardon, c'est le contraire, faire pour apprendre au travers du sport, au travers de l'atelier. Allez, on va être gentil, 30 minutes de marche en forêt ou 30 minutes de marche, ça peut être un exercice physique extrêmement bénéfique d'ouverture d'esprit, et c'est ce que je défendrais si j'étais maire d'une, en tant que maire d'une ville.
Très clair. On se donne combien de temps, monsieur le maire, pour que nos services communiquent auprès des écoles et des parents quand il y a un portail citoyen avec un message un peu automatisé? Enfin voilà, il y a tous les outils aujourd'hui.
Moi, je crois à la temporalité, je crois qu'il faut... il faut appliquer une stratégie que moi j'aime beaucoup, que j'appelle la stratégie du sachet de thé. Un bol d'eau chaude, un sachet de thé, quand ça devient amer, on retire. Donc il faut aller doucement, c'est les 3 prochaines années. Voilà, toute ma mandature, les 3 prochaines années sont dédiées au bien-être, au plaisir, bien-être, santé, plaisir par le sport, la nourriture, l'aspect nutritionnel des choses, et puis de rentrer dans un processus long. Je ne crois pas au one-shot ou aux rhétoriques de plateau de télévision où on peut tout faire en claquant des doigts parce qu'on serait élu. Ouais. Non, un élu, ce n'est pas un magicien. Un élu, il faut du temps, il faut une temporalité, comme je t'ai dit, une temporalité de 24 heures. Ayonne la décision, et Kéros la décision, et Ayonne, revenir à l'essentiel des choses, de ramener les gens, les jeunes gens, dans un mouvement physique, une corporalité. Pourquoi ? Parce que notre société vit dans 2 mondes. Un monde réel dans lequel on fait du sport en temps plein, et puis il y a un monde parallèle aujourd'hui qui s'est installé, qui est le monde du numérique, le monde du digital, où des gens s'inventent des vies dans ce monde-là. Mais ce monde-là, il n'existe pas. Et ce n'est pas parce que vous allez passer 6 heures devant un écran que vous serez en condition physique, même si vous avez les plus belles vidéos de boxe ou de judo, il n'y a que des champions du monde. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas champions du monde d'ailleurs, mais ils nous donnent des cours sur les vidéos. Mais ce n'est pas la vraie vie. Donc il faut revenir dans la vraie vie.
Ok. Moi, le timing, et je suis complètement d'accord sur les 3 prochaines années, c'est l'héritage. De toute façon, ça se fait dans le temps. C'était plutôt la méthodologie. Voilà, on se met en route sur le temps administratif que tu connais avec ton asso. Voilà, comment on communique? Enfin, en tout cas, on a dit qu'on communiquait de manière simple. Mais on se donne quoi? 3 mois pour se dire, en 3 mois, on a couvert en tout cas l'ensemble des écoles. Tout le monde est go et on enclenche les premiers ateliers.
Exactement. 3 mois, c'est un bon... un bon timing. 3 mois, on communique sur les écoles. Les mois suivants, eh bien, on met en pratique. Ouais. Et puis, on se trompe. C'est pas grave.
Bien sûr, on teste et
on apprend. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Moi, je crois pas qu'on puisse mettre tout de suite dans la cible. Donc, on va avancer en marchant, on va recaler les choses, mais on sera en mouvement. Et un peuple qui redevient en mouvement, un peuple qui reprend conscience de sa condition physique, eh bien, intellectuellement, ça va beaucoup mieux.
Corps et esprit.
Et au corps et esprit, oui, puis dans le corps et esprit, le gros avantage du sport, c'est que vous apprenez que tout n'est pas de la faute de l'autre. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes sur un tatami, sur un ring ou sur un stade, vous dites « bah ouais, j'ai mal joué ». Voilà, à moi de me remettre en question. C'est toute la magie du sport et de ce cadre éducationnel de sport et du faire pour apprendre dans le sport. Et je pense que c'est vrai quand on est adulte, même adulte avancé, de considérer qu'à un moment donné, même quand on se lève le matin, on fait 30 minutes de réveil musculaire, on se dit j'ai peut-être un peu abusé hier soir, donc il faut peut-être que... et c'est ça le truc du sport, donc il faut partager ça avec nos enfants, parce que c'est eux qui feront la nation de demain.
Bien sûr. Ce serait quoi pour toi les indicateurs, parce que tu as entièrement raison, on teste, on apprend, ça dans l'univers start-up et dans les entreprises et dans plein de milieux, c'est une vraie bonne méthode. On se donne quoi comme indicateur de mesure pour se dire, au bout de 12 mois, on a commencé en tout cas à chiffrer ou à mesurer des choses qui vont nous servir pour année 2, année 3? Ce serait quoi pour toi?
Très honnêtement, il y a ce qui existait, ce qui est dommage qu'on ait une raréfaction de cela, mais il faut le retour un petit peu à la visite médicale qui nous permet d'évaluer...
Des tests de conditions physiques, même
si c'est très privé par moment, de dire, regardez, nos enfants vont mieux, ils se tiennent mieux, il y a moins de surpoids, il y a moins de risque de diabète. C'est ce que nous disent tous les médecins. Attention, maintenant, on a beaucoup d'adolescents vraiment avec des taux de diabète absolument incroyables. Donc tout ça, ce serait une évaluation, parce que si on veut vérifier un système, il faut pouvoir le mesurer. Si on ne le mesure pas, il ne se passe rien. Donc, encore une fois, moi, je crois... aux maisons de santé. Et okay. je pense que ces enfants scolarisés pourraient passer en maison de santé, évidemment, tout ça évidemment dans une condition normée, parce que la santé, c'est pas, c'est très personnel, mais de leur permettre ça, une vérification du poids, de la taille, et de petites choses comme ça qui leur permettent de continuer à se dire « mais je vais mieux, je respire mieux, tout va mieux dans ma vie parce que je me sens bien ». Bien souvent, des enfants sont malheureux parce que physiquement, ils se sentent pas forcément bien ou prêts pour affronter la vie. Or que le sport, la première des choses que vous donne le sport, c'est la confiance en vous. C'est ça qui est magique. C'est que moi, je me suis senti invulnérable. Aux premières séances de judo, je me disais, c'est bon, je peux rentrer tout seul dans le quartier. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Et ça, c'est quand même des choses qu'on veut donner. Mais que ce soit du judo, de la boxe, du volley, du foot, peu importe. Mais le sport vous met en confiance.
C'est clair. Ok sur ça. Et est-ce que tu vois d'autres acteurs à coordonner ? Alors, quand tu parlais des maisons santé, tu parles aussi des maisons sport santé ? On sait que c'est un dispositif labellisé.
Bien sûr, les maisons sport santé que j'ai trouvé formidable. D'ailleurs, on en a souvent parlé avec Benoît Campargue. On trouve ça génial. Et puis, on voit une raréfaction des médecins, notamment en milieu rural. Il nous faut des maisons de santé, peut-être avec des médecins plus itinérants, mais, ou de jeunes médecins qui pourraient venir vérifier un certain nombre de bienfaits et de médecins connaissant aussi la nutrition, voir comment on peut aider les familles à réguler tout ça. Mais je couple forcément le monde du sport avec le monde de l'alimentation parce que l'alimentation peut être détestable et remettre en question toutes les pratiques de sport. Parce que si c'est 5 sodas par jour et des produits qui ne sont pas bons pour votre santé, bah, évidemment, vous allez ruiner tous les efforts physiques que vous faites. Mais quand on fait un effort physique, finalement, on se dit... Ben ça, j'en ai peut-être pas besoin. Et c'est ce mécanisme, dans le mécanisme sport-santé, où on peut inclure l'alimentation. Si on ne lutte pas contre la sédentarité, on n'améliorera pas l'alimentation de nos enfants.
Très clair. Tu nous donnes un exemple de ces trois aliments, trois gestes ?
Ah oui,
parce
non,
que quand
non,
même, un maire qui s'appelle Thierry Marx, ils vont se régaler non, les
trois,
enfants.
Trois aliments, trois gestes, facile. D'abord, on va essayer de convaincre tout le monde de faire 80-20, 80% de végétal, 20% de protéines animales. Donc ça veut dire aller de la viande une fois par semaine, du poisson une fois par semaine, des œufs une fois par semaine, le reste on mélange tout ça avec un peu plus de végétal. En gros, on va passer du bœuf-carotte au carotte-bœuf. Mais d'avoir une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus grammée aussi, parce que bien souvent on a l'impression qu'on possède, parce qu'on a beaucoup dans l'assiette, mais sont bien souvent des calories creuses qui n'ont aucun intérêt pour votre alimentation. Donc, réapprendre aussi à grammer notre alimentation.
Là, tu touches un point qui est intéressant, c'est les représentations sociales. Il y avait un sujet sur, dans des quartiers populaires où, en fait, les parents, en offrant des marques de biscuits, des Oreos, il y avait eu tout un débat là-dessus, c'était un certain accomplissement.
Mais bien sûr. Moi, je l'entends. Hein, j'ai vécu beaucoup dans ces quartiers et j'y suis beaucoup. Et ce sentiment de déclassement qu'on peut avoir... je comprends ces parents qui se disent mais pourquoi pas la pâte à tartiner comme tout le monde, pourquoi pas le soda comme tout le monde. Ben finalement le tout le monde qu'ils pensent consommer cela, c'est pas vraiment vrai, c'est une représentation. Mais je comprends ce sentiment de déclassement et de vouloir faire absolument plaisir à leurs enfants. Mais en même temps, moi j'interdis rien, d'abord je suis pas médecin, et les médecins avec qui je travaille me disent mais si c'est une fois de temps en temps, mais il n'y a pas de problème. S'il y a un vrai travail sur le sport et la lutte contre la sédentarité, il n'y aura pas de sujet. Moi je taxerai encore plus les sodas, parce que je trouve que les sodas doivent payer encore plus pour que nos enfants fassent du sport, parce que ça, tous les médecins sont d'accord pour dire que autant on peut accepter une pâte à tartiner que les sodas, c'est vraiment pas nécessaire et que la pathologie liée au soda va être durable. Donc là, je leur demanderai de faire un petit geste pour le monde du sport. Et ça tombe bien parce qu'on en connaît qui sont dans les JO là en ce moment.
Génial. Merci pour ces exemples. Écoute, je pense qu'on est... On est au complet sur cet exercice, en fait, finalement, à moins que tu veux rajouter quelque chose sur ces 12 premiers mois de ton mandat. Je trouve que l'exercice, en tout cas, est ambitieux, l'idée est bonne. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on fonce et on nous fait des retours, évidemment, si on met en place. Tu veux rajouter quelque chose sur
non,
cet exercice ?
Non, non, c'est... Je veux juste rajouter une chose, que tout ça est une volonté politique. Ce n'est pas une volonté d'avoir envie d'être élu, mais politique au sens... générique du terme, c'est-à-dire s'occuper des autres. Beaucoup de banlieues l'ont oublié, mais il y a certaines banlieues où on s'occupait beaucoup des gens, peut-être pas à bon escient d'ailleurs, mais en tout cas le sport était quasiment gratuit. Et je trouvais que c'était quelque chose de formidable. Donc il faut passer par cette notion du sport. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé de sport pour lutter contre la sédentarité, mais on oublie trop souvent que le sport, c'est aussi le lien social. Et ce lien social, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Moi, je me souviens des stades de Pershing quand j'étais enfant et tous ces sports corpaux qu'il y avait du monde de l'entreprise. Ouais. Tout ça crée énormément de liens sociaux, une relation entre les couches sociales et globalement, ça améliorait quand même la vie de nos concitoyens. Donc le sport a un lien fort pour que politiquement, au sens étymologique du mot politique, on ait besoin de sens.
En fait, c'est embarqué, enfin, c'est ce que tu viens de dire, c'est l'engagement politique, c'est dans le sens, cette dynamique, j'irai jusqu'au bout.
Bien sûr, avec vous, mes habitants,
avec vous, mes clubs, avec vous, les élèves, les écoles, etc.
Tout à fait, et si on ne prend pas le citoyen à la base, donc la base, bah, c'est l'école, et on n'y arrivera pas. Et il faut faire pour apprendre. C'est-à-dire que la mécanique, elle n'est pas d'en parler, simplement d'en parler et de faire, encore une fois, comme je le dis, des rhétoriques de plateau, mais de se dire, bon, ben, c'est pas grave, on va commencer par 30 minutes, deux fois 30 minutes dans la semaine, est-ce qu'on va les trouver, est-ce qu'on va pouvoir les planifier? Est-ce que une action sportive peut être une marche de 15 minutes ou 30 minutes dans un square, dans un parc, si on a un bout de forêt près de... Tout ça doit être des mécanismes remis en place avec des parents aussi volontaires qui peuvent être des accompagnants extrêmement volontaires parce qu'on oublie que bien souvent les parents vont sacrifier, dans certaines familles vont sacrifier un peu d'argent pour que leurs enfants fassent du sport, mais eux se sont privés de sport. Et c'est pas bon non plus que les parents se privent de sport au détriment de leur propre santé. Donc moi je crois beaucoup au sport familial, je crois beaucoup au partage et au lien social que représente le sport.
Très clair. On pourrait même imaginer ces fameux ateliers, si ça se déploie en tout cas et ça se généralise, on le fait à l'école, et ben on le fait aussi sur des temps de famille. Il existe déjà des dispositifs le week-end où tu as des éducateurs dans les villes qui sont mis à disposition, ils vont dans les parcs, et là tu as des familles, parents, enfants qui font du sport ensemble.
Bien sûr.
Donc demain on peut imaginer cette même pédagogie en tout cas sur l'alimentation dans les quartiers, en bas des immeubles, tu peux mettre en place des
dispositifs. Bien sûr, et puis profitons des jeux. Il a fallu attendre un siècle pour qu'on ait les jeux en France. De nouveau, et ce rôle modèle qui représente les athlètes, on les a là, sous le nez. Alors, on peut râler de ci ou de ça, mais les jeux sont là, profitons. Il faut les défendre
là, faut
au
pousser,
maximum.
Il faut pousser,
il faut qu'on y soit tous à défendre ces jeux en France. Ça va être merveilleux. Je suis sûr qu'on va avoir des grandes choses. Les athlètes sont prêts, les paralympiques sont prêts. Ça va être génial. Donc, profitons de ça pour redonner un élan à ce pays, à cette nation qui doit absolument retrouver le goût du sport.
Message entendu dans les territoires, les décideurs du sport, on bouge chaque jour. Il faut qu'on puisse mener des initiatives. Là, c'est maintenant, ça va être pendant et puis ça va être après, les années d'après. Merci Thierry pour l'exercice. Vraiment de t'être prêté au jeu, c'est super sympa. Je ne crois pas que tu sois élu dans une mairie.
Non, j'y tiens pas d'ailleurs.
Donc, ce n'est pas forcément naturel cet exercice. Donc, c'est d'autant plus remarquable. Merci pour cette idée. Et puis, bah, on le rappelle, cet outil que toi, tu mets à disposition, bien sûr, Passeport pour l'emploi. Ton association, bravo pour ça aussi. J'ai les deux dernières questions traditionnelles de l'épisode Bleu Blanc Bouge. Est-ce que tu peux nous citer une personne qui t'inspire dans la promotion du sport? Et pourquoi elle t'inspire?
Des gens qui m'inspirent dans la promotion du sport.
C'est-à-dire des gens qui réussissent à mener des projets qui vont, même si c'est à l'échelle d'une ville, d'un territoire, pour un petit public, mais en tout cas qui réussissent à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire mettre les gens en activité physique.
Alors, oui.
Cite pas toi, hein,
Non, mais je pourrais en citer beaucoup, mais je vais citer quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'émotions. Dimanche, c'est Teddy. Teddy, quand je le vois gagner et lever les foules, je suis sûr que les gens qui l'ont vu, ne serait-ce qu'à la télé, se sont dit pourquoi pas moi, je ferais du judo. Donc ça fait partie de ces gens qui sont inspirants, sont des rôles modèles. On pourrait en choisir des dizaines d'autres. Je pourrais prendre Clarisse, je pourrais prendre des tas de judokas ou de gens qui m'inspirent dans le sport. J'ai rencontré Lavillény, je trouvais que c'est un type formidable. J'en ai rencontré des tonnes. Donc ces gens nous oublient trop souvent d'ailleurs qu'ils sont des rôles modèles. Parce qu'on pense toujours aux grands joueurs de football, tant mieux, ils ont une une lumière. Mais globalement, j'ai envie de dire, bah, il y en a 500 000, quoi. Je veux dire, ils sont trop nombreux. Et c'est, ils oublient trop souvent qu'ils sont des rôles modèles. Quand j'ai vu quelqu'un comme Lavillenie, moi, j'ai été bluffé. Mais des boxeurs aussi, j'ai eu beaucoup de boxeurs. Sous les mains de Sissoko, des boxeuses. Ils donnent envie. Et ça, ils inspirent beaucoup, sont des gens inspirants, sont des rôles modèles, je les défends beaucoup.
Super, merci. On les embrasse. Et alors, dernière question sur une ressource que tu pourrais partager à nos auditeurs. Un livre, une expo, un documentaire, un film que tu as récemment vu, qui t'a inspiré. C'est pas forcément dans le domaine du sport, mais qui pourrait justement avoir cette... cette capillarité, justement, on le sait, hein, le pluridisciplinaire, ça permet d'inspirer. Donc,
j'ai pas le, je pourrais citer des quantités d'ouvrages et tout ça, mais ce qui me rattache encore au sport, c'est les jeunes, comme je viens de les citer, et les moins jeunes. Je pense à mes copains boxeurs, M. Négrouche a choisi le roi, je pense à tous ces boxeurs qu'on a connus, qui nous ont donné envie. Et on lisait quoi? On lisait l'équipe. On lisait l'équipe à l'école, on lisait l'équipe sur le comptoir, on lisait l'équipe entre copains et on regardait si on n'avait pas trois lignes dans l'équipe ou quelque chose comme ça. Donc je vais tirer un coup de chapeau à l'équipe et un double coup de chapeau. Pas pour leur faire de la publicité malvenue, mais ils ont fait un papier extraordinaire sur Georges Carpentier.
Okay.
Georges Carpentier était le boxeur fétiche de mon grand-père. Mon grand-père ne faisait pas de boxe anglaise, mais il faisait de la boxe française, il faisait de la savate.
Ouais.
Mais il avait une admiration absolue pour Georges Carpentier. Et Georges Carpentier a écrit un merveilleux livre sur sa préparation physique. Et on revient à des préparations physiques à poids de corps, comme faisait Georges Carpentier, avec la scie pour scier des bûches de bois, la masse. Le pneu
à la cubaine.
Et quand on voit le parcours de Georges Carpentier et son entraînement qui ressemble à un crossfit, on se dit, mais voilà, les temporalités reviennent dans le bon sens.
Bien sûr.
Donc un hommage à ce journal des sports qui permettait au peuple d'aimer le sport. Et on a trop souvent oublié qu'on ne peut pas gagner que par l'élite. C'est formidable, l'élite, et j'adore, et je la défends. Mais à un moment donné, c'est le peuple qui va pousser, et c'est un peuple sportif qui va soutenir ses athlètes parce qu'il va transposer quelque chose. Donc un hommage à ce journal, et que je lis encore régulièrement, et je me souviens d'aller acheter les photos en noir et blanc de tous les grands boxeurs. C'était rue Montmartre à Paris où il y avait le journal qui était là et on rachetait pour un franc ou deux les images de ces boxeurs ou de ces lutteurs ou des athlètes qu'on admirait.
On notera les petites traces à ton œil, mais ça ne vient pas de la boxe, même si tu es boxeur.
Ça vient du judo.
tu me l'as dit tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas, Thierry est toujours bien prêt physiquement, soit sur le tatami, soit sur le ring.
C'est vrai.
Merci beaucoup,
merci,
Thierry, pour
merci
ton temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochains mois?
Une bonne santé. Et voilà, après, bon, le reste, on se débrouille, on s'adapte. Mais il faut essayer de maintenir une bonne santé. Et il est prouvé que de faire du sport, ça nous maintient en bonne santé.
Merci, Thierry.
Merci.
Bonne journée, à bientôt.
Merci.
Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Bleu Blanc Bouge jusqu'au bout. Merci de le partager autour de vous, d'inscrire vos collègues ou vos proches et de mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en communication, en cartographie dédiée au sport de votre ville ou autour de votre magasin ou de votre entreprise, toute l'équipe de Bouge va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur mehdi@bouge.app. Je suis Mehdi Savary et je vous souhaite un max d'activités sportives dans votre quotidien.